Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima, Aouta.
Dégradation de la situation humanitaire dans les territoires des Rutshuru. Consécutive aux affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23, le nombre de déplacés augmente et des personnes meurent, dont certains exécutés par les rebelles du M23. C'est parti pour une longue tournée à travers le pays. La relique du premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba a quitté Kinshasa hier pour Onalua, rebaptisée Lumumbaville dans le Sankuru. Première étape de cette tournée d'hommage. Enfin, notre invité dans cette édition est le professeur Serge Tshibangu, mandataire spécial du président de la République. Il revient sur la décision des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est de mettre en place une force régionale neutre pour traquer les forces négatives. Et voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Le territoire de Rutshuru dans le Nord Kivu continue à payer les prix lourds à la suite des combats qui opposent l'armée aux rebelles du M23. D'après les ressortissants de ces territoires, le nombre de déplacés augmente. Ajoutez à cela le nombre de civils qui sont tués dans les affrontements et d'autres sont même exécutés par les rebelles. Suivez ce reportage de Bernard Nyangi rendu ici par Mathieu Ilunga.
Après le groupement Djomba, Busanza et Bweza, qui sont déjà vidés à plus de 90% de leur population, un notable du territoire de Rutshuru déplore que ces affrontements frappent depuis mardi le groupement de Kisigari. Dans cette zone précise, la situation des familles déplacées reste inquiétante, aussi bien à Rutshuru qu'en Ouganda. Ce n'est pas tout. Des exécutions sommaires des civils attribuées aux rebelles du M23 font légion pour terroriser la population. Ernest Sengoma.
C'est tous les groupements, Kisigari et Bweza, qui subissent les affres de la guerre. Maintenant, nous avons déjà comptabilisé plus de 13 morts. C'est pour moi l'occasion de venir demander véritablement à la MONUSCO de protéger les populations civiles, parce qu'il y a notamment des exécutions sommaires au motif que la population collaborerait avec les FARDC.
Dans son rapport humanitaire du 14 juin dernier, OCHA comptabilisait déjà 345 000 personnes déplacées consécutivement à 10 épisodes d'affrontements entre janvier et mai 2020. Dans les territoires de Rutshuru. Selon le même rapport, OCHA précise que pour cette année, les acteurs humanitaires ciblent environ 172 000 personnes dans ces territoires. Goma, Mathieu Ilunga Chambouya Monatiebe, Radio Okapi.
Et sur le terrain, on assiste à un calme précaire depuis hier mercredi dans les groupements de Djomba et de Kisigari dans le territoire de Rutshuru. Ces entités étaient le théâtre des violents affrontements pendant toute la journée de mardi entre les FARDC et les rebelles du M23. Les sources coutumières locales avancent un bilan de 13 civils tués. 8 villages ont été vidés de leurs habitants également. Bernard Nyangi nous fait le point.
C'est entre 19h et 21h locales que les dernières détonations d'armes lourdes et de bombardements ont été signalées mardi dans la zone de Changi, groupement de Bweza, où il y a encore une position avancée de l'armée nationale congolaise, indiquent certaines sources civiles et administratives dans la zone. Pour ces sources, les attaques des rebelles sur les villages Bikenge, Changi, Bukima, Ruvumu et leurs environs ont causé d'énormes dégâts humains. Si l'armée a repoussé cette attaque dans quelques ans de ces villages après une brève occupation des rebelles, nos sources indiquent que certaines de ces localités seraient encore occupées partiellement par les M23. C'est entre autres Ruvumu, Buaro et Rutokara, en groupement de Kisigari, où, selon les sources coutumières locales, au moins 13 civils ont été tués alors que plusieurs autres qui n'ont pas pu fuir restent enfermés par l'ennemi dans leur maison. Ces sources craignent que ses habitants ne soient utilisés comme boucliers humains par les rebelles en cas d'une réplique de l'armée nationale. Rappelons que mardi était le troisième jour consécutif des affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23 qui occupent pour l'instant une majeure partie des groupements de Djomba, Busanza et Bweza, y compris la frontière de Bunagana. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Entre-temps, la Fédération des entreprises du Congo FEC, groupement territorial de Boutembo-Loubero, salue la décision du gouverneur des provinces du Nord Kivu portant interdiction de l'importation et de l'exportation des marchandises via le poste frontalier de Bunagana. En effet, depuis plus d'une semaine, ce poste frontalier est situé dans les territoires de Rutshuru et ouvrant la voie à l'Ouganda voisin est sous contrôle des rebelles du M23. Son président, Polycarpe Divito, demande cependant aux autorités de renforcer les mesures sécuritaires sur l'axe Beni-Kassindi, qui est une des alternatives pour continuer à alimenter la région des produits importés. Polycarpe Divito a été joint au téléphone par Grace Amzati.
Cette décision, elle est bonne et puis il faut l'accompagner seulement. Je ne vois pas un opérateur économique qui aujourd'hui va prétendre aller collaborer avec l'ennemi de notre pays. Vous le savez, Bounagana, Ishasha était notre deuxième porte d'entrée après que Kassindi ait des problèmes de transit entre Kassindi et Beni. Parce qu'il y a beaucoup de marchandises que nous avons perdues sur cette route-là. Il n'y a pas seulement les marchandises, les camions et les vies humaines. Mais maintenant que l'ennemi a attaqué cette partie-là, c'est une désolation dans les chefs des entrepreneurs que nous sommes.
Et nous allons jouer à l'adaptation. On va passer par Kassindi et demander à l'autorité à ce que les scots soient renforcés pour que les marchandises, les produits de consommation arrivent à Beni, à Butembo et à Lubero. Également, la partie Ishasha étant encore libre, on va continuer à utiliser Ishasha en attendant que Bounagana soit complètement libéré. Donc, on ne va pas croiser les bras. Si la route entre Goma et Rutshuru n'est pas encore coupée, bon, on va aussi utiliser Goma.
Et puis, les ports détenus qui s'apparentent à celles des policiers ou des militaires par des tierces personnes est interdit. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur l'a fait savoir lundi dernier sur la chaîne nationale. Daniel Asselo a à cette occasion demandé aux partis politiques, notamment l'IDPS et l'UNAFEC, dont les jeunes arborent ce genre de tenues, de mettre fin à cette pratique qui les expose à des poursuites judiciaires. Jean Gandou, comment cette mesure est-elle accueillie par les concernés?
Le port de ces uniformes par les jeunes de ces partis politiques est souvent remarquable lors des manifestations publiques, au point de créer de confusion au grand étonnement de plusieurs personnes. Pour Eric Ndala, président fédéral de l'UNAFEC dans le Haut-Katanga, son parti s'est déjà mis au pas pour l'exécution sans faille de la mesure prise par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur.
Chez nous à l'UNAFEC, cette mesure est bien perçue et nous avons communiqué aussi à nos combattants et combattantes que vous allez constater sur la ville, il n'y a pas de tenue qui ressemble à la tenue militaire portée par nos jeunes. Donc, nous continuons la sensibilisation. Je demanderai à tous les combattants de déplier la tenue qui ressemble à la tenue militaire et de se conformer à la mesure du VPEMS.
À l'UDPS, on appelle tous les jeunes à se conformer à cette décision. Dani Kabongo, responsable de la jeunesse.
Je demande à tous les jeunes de l'UDPS d'obéir totalement aux mesures prises par le ministère de l'Intérieur. Et s'il y a un jeune de l'UDPS qui va désobéir, et quand il sera frappé par la loi, il s'apprendra qu'à lui-même.
À la Commission nationale des droits de l'homme, bureau de représentation du Haut-Katanga, on estime que cette mesure est tombée à propos, mais tardivement, car les bévues n'ont que trop duré et que la loi a été longtemps bafouée par ses formations politiques. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Comme prévu, le reste du premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, sont de retour au pays. À peine arrivé à Kinshasa, le cercueil qui contient la dent du pionnier de l'indépendance du Congo a pris le chemin de Onalua, rebaptisé Lumumbaville dans le Sankuru. Outre les membres de la famille, plusieurs personnalités font partie du voyage. C'est pour une longue tournée à travers les pays qui démarre donc au Sankuru, sa province natale. Pele Kipelamondo.
À l'aéroport d'Ndjili, l'émotion est au rendez-vous. C'est mercredi 22 juin 2022, lorsque l'avion atterrit à son bord, les restes du tout premier ministre du Congo, Kinshasa indépendant. Enfin, Patrice Emery Lumumba est de retour dans son pays, 61 ans après son assassinat. Le commandant de bord de l'Airbus de Congo Airways, qui transporte la dépouille de Lumumba, confie à nos confrères de l'AFP sa fierté d'avoir eu la responsabilité de ramener au pays les héros nationaux congolais. Dans la délégation partie de Bruxelles pour Kinshasa avec les corps, se trouvent notamment la famille et des membres du gouvernement congolais, dont le premier ministre. Peu après, le cercueil est transporté dans un autre avion, direction Onalua, rebaptisé Lumumbaville, dans les Sankuru, la province d'origine de Patrice Emery Lumumba. Après les Sankuru, le cortège se rendra à Kisangani puis à Lubumbashi pour être conduit à Chilatembo, où Lumumba a été assassiné avec deux de ses compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, élevés au rang de grands officiers de l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. La dépouille sera ensuite ramenée à Kinshasa. Trois jours de deuil national seront organisés, puis l'inhumation au mausolée dont les travaux de construction sont pratiquement terminés à la place de l'échangeur à Limité. Le deuil national prendra fin avec la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance du pays. Ça sera le 30 juin prochain.
Autre nouvelle, la femme n'a pas assez de place dans les structures de recherche de paix en République démocratique du Congo. Marie-Claude Nkulumbayo du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba qui le dit, invite par conséquent d'autres femmes à participer à ce processus. Elle s'est ainsi exprimée mardi dernier ici à Kinshasa. C'était au cours d'une session d'échange pour le développement des stratégies pour une meilleure participation des femmes congolaises au processus de paix en RDC. Cette activité qui rentre dans le cadre du mandat de la MONUSCO dans la promotion de la participation et du leadership des femmes dans la recherche et la consolidation de la paix a été organisée par la mission onusienne en partenariat avec l'ONU Femmes et d'autres partenaires. À cette occasion, différents participants ont expliqué que la participation de la femme est importante pour retrouver la paix dans les pays. Marie-Claude Nkulumbayo est au micro de Philbert Balolagué.
La représentativité des femmes dans des structures de recherche de paix n'est pas suffisante. Il y a encore du chemin à faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est nous sensibiliser. Voilà le pourquoi de cette journée de sensibilisation. Que les femmes prennent conscience du fait que son apport est très important dans tout le processus de recherche de paix et que la recherche de la paix n'est pas seulement fonction des ONG de manière stricte, n'est pas seulement fonction des institutions de l'armée et de la police. Toute personne est censée apporter son concours pour que la paix soit recouvrée dans notre pays. Donc, c'est la sensibilisation. Nous devons nous sensibiliser et nous remercions votre outil ici qui est la presse, qui va atteindre au-delà des frontières d'autres femmes, qu'elles comprennent qu'elles sont considérées. On a besoin de leurs paroles, on a besoin de leur implication pour sensibiliser quiconque à laisser les armes pour s'inscrire dans le processus de DDRCS afin que nous développions notre pays.
Et puis, nous vous en parlions mardi dernier, la mission onusienne a organisé la cérémonie officielle de fermeture de sa base au Tanganyika, la date de départ étant maintenue au 30 juin prochain. Au cours de la cérémonie, les autorités présentes ont rappelé que le départ de la MONUSCO n'est pas le départ des Nations Unies de la province. Elles ont aussi souligné qu'en cas de besoin, la province peut bénéficier de l'assistance de la MONUSCO puisqu'il n'y a pas rupture totale de la relation. Les détails sur ce point avec Philbert Balolagué.
Les autorités congolaises et les Nations Unies ont convenu de retenir une force de maintien de paix à Bendera, comme l'affirme Mme Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC.
S'il y a besoin, nous allons pouvoir déployer depuis le sud Kivu. Et par rapport à la zone de Bendera, on est déjà là. J'ai dit, il y a 70 policiers qui sont arrivés et vont être déployés. Mais tout ça, c'est le résultat d'une collaboration et d'un plaidoyer commun entre l'autorité provinciale et ceux qui sont à Kinshasa.
Le ministre des Droits Humains, Albert Fabrice Pella, a rappelé la nécessité du gouvernement de maintenir la paix, mais sans rupture brusque de la collaboration.
Il va sans dire, et nous l'avons dit également dans notre discours, qu'il y a des difficultés, quelques problèmes résiduels. C'est pourquoi, après une grande assistance, comme un enfant qui doit marcher, on ne l'abandonne pas directement pour aller. Il y aura donc quelques accompagnements. On a parlé de Nyunzu, où il y a encore des problèmes, et à Bendera, et surtout pour le renforcement des capacités au niveau de la police nationale.
Athanas Kitouka de la société civile estime que la présence de la MONUSCO était encore nécessaire, mais la tâche de restaurer la paix revient maintenant au gouvernement. De retour de Kalemi, Fulbert Balolagué, Radio Okapi.
L'Union européenne démarre la deuxième phase de son programme d'appui à la justice par J2, en remplacement de par J1. Pour clarifier ce procédure et mettre tous ses partenaires et les bénéficiaires au même niveau de compréhension, le PARJ2 organise à l'intention des magistrats et du ministère de la Justice une formation de 5 jours axée sur les procédures du Fonds européen au développement FED. Selon les responsables du PARJ2, aucun financement de la part des bailleurs de fonds ou aucune action ne peut se réaliser sans respect des procédures ou des règles relatives au financement. Reportage Jeff Ngoy.
La délégation de l'Union européenne et le ministère de la Justice à travers l'ordonnateur national COFED valide un budget global pluriannuel de 35 millions d'euros pour financer le secteur judiciaire dans le domaine des infrastructures et de l'assistance technique pour une période de 4 ans. Mais il faut maîtriser les règles en la matière, comme l'explique ici Justin Takobajira, chef d'équipe intérimaire du PARJ2.
Le procédure du Fonds européen de développement, ce sont les règles et procédures qui régissent les actions financées par l'Union européenne à travers les 11e fonds européens de développement. L'objectif, c'est d'arriver à clarifier, à améliorer la compréhension des règles qui gouvernent les actions de l'Union européenne. Parce qu'on s'est rendu compte que le bénéficiaire dénonce la lenteur de procédure, leur longueur, la bureaucratie.
Gloria Matondo de la thématique droits humains du ministère de la Justice parle de sa participation.
En rapport avec la passation de marché, la RDC a des règles sur la passation de marché, sur les marchés publics. Présentement, là, nous sommes en face d'un partenariat et d'un financement de l'Union européenne. Et donc, l'Union européenne impose aussi ses procédures à elle.
Actualité internationale.
Alors qu'au Mali, le débat sur la nouvelle loi électorale s'est surtout concentré sur les divergences entre le Conseil national de transition et le gouvernement, le texte, y compris dans sa version amendée par le membre du CNT, pourrait permettre au colonel Assimi Goïta de se présenter à la prochaine élection présidentielle. C'est la mission d'observation des élections au Mali, composée d'experts de la société civile et une quarantaine d'organisations qui l'a noté dans son dernier rapport. La nouvelle loi électorale, si elle est promulguée, permettra aux militaires membres des actuelles autorités de transition de se présenter à la prochaine élection présidentielle. C'est là à condition de démissionner 4 mois auparavant.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est le professeur Serge Tshibangu, mandataire spécial du président de la République. Il revient sur la décision des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est de mettre en place une force régionale neutre pour traquer les forces négatives. Il s'entretient avec Michel Kifindangoy. Suivez.
Serge Tshibangu, bonjour.
Bonjour, monsieur Kifinda.
Une force régionale neutre va bientôt être mise en place pour traquer les forces négatives dans le Kivu et l'Ituri. Que devient la MONUSCO et sa brigade d'intervention ?
Eh bien, la MONUSCO reste quand même le partenaire stratégique et même privilégié par rapport à ces opérations. Il vous souviendra que la MONUSCO elle-même, d'ailleurs, nous avons travaillé de manière très étroite avec elle et nous continuons à travailler de cette manière-là dans tout ce qui est processus politique, dans le processus de Nairobi. Donc, il est donc clair que dans la partie militaire de ce processus de Nairobi, la MONUSCO continue à accompagner la force régionale au niveau que ce soit de la collaboration et même au niveau des opérations. Et aussi, on a quand même beaucoup de chances que nous ayons déjà certains pays qui feront partie de la force régionale, qui en même temps sont déjà dans la FIB. Je pense par exemple au Kenya et un peu plus tard à la Tanzanie.
Cette force aura-t-elle son propre territoire de déploiement pour combattre les groupes armés ?
Là, nous entrons déjà pratiquement dans les opérations de planification, qui je pense que je ne peux malheureusement pas commenter à ce stade-là, mais ce qui est sûr, c'est que la force sera déployée partout où les groupes armés sont actifs. Je pense ici au nord et sud Kivu, je pense à l'Ituri. N'oublions pas qu'il y a également le Tanganyika et le Maniema. Là, nous avons quelques groupes armés qui sont toujours actifs. Ce qui est sûr, c'est que avant son déploiement, au niveau territorial, il y aura bien sûr des consultations et des planifications qui seront faites avec les FRDC, avec la MONUSCO et même par rapport aux opérations conjointes qui existent entre les FRDC et l'UPDF de l'Ouganda.
Pourquoi exiger le retrait du M23 et d'autres groupes armés des positions qu'ils ont conquises si la force régionale va être déployée pour les traquer ?
Oui, souvenez-vous que le processus politique, le processus de Nairobi continue. Il ne s'est pas arrêté parce que la force régionale est en train de se préparer à être déployée. Et il vous souviendra donc que pour que ce processus politique soit conduit en toute sérénité, on ne peut pas discuter avec les groupes armés qui ont des kalachnikovs à la main. Donc pour revenir au M23 particulièrement, ce qui leur avait été demandé, c'est de rentrer dans leur position initiale d'avant le début des consultations politiques qui se tenaient à Nairobi. La force régionale n'interviendra et ne traquera que tous ceux qui résisteront au processus politique, que ce soit le M23 comme tout autre groupe armé. Pour les étrangers de rentrer dans leur pays d'origine, ils seront traqués par la force régionale.
N'est-ce pas logique de leur lancer un ultimatum à l'issue duquel la force sera déployée en cas de non-retrait ?
Ce qui est logique, monsieur Kifinda, c'est que pour ce qui est des groupes armés locaux opérant donc à l'est du pays, c'est que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo leur avait tendu la main et cette main reste tendue et rejoindre le processus de paix qui les conduira au processus de PDDRCS. Maintenant, pour ce qui est des groupes armés étrangers opérant à l'est de la RDC, il n'est même pas question de discuter avec eux ou de négocier avec eux. Il est plutôt question de désarmer et qu'ils rentrent dans leur pays d'origine.
Le président de la République a-t-il plein pouvoir pour engager le pays dans cet accord de déploiement de la force régionale sans passer par le Parlement?
À ma connaissance, le président de la République n'a pas d'obligation constitutionnelle de pouvoir demander l'autorisation du Parlement. Mais il vous souviendra quand même que cette force régionale a été constituée et sera déployée en fonction du traité de la communauté d'Afrique de l'Est. Nous venons d'adhérer à cette communauté, nous venons de recevoir l'autorisation de l'Assemblée nationale ainsi que du Sénat de pouvoir ratifier ce traité qui régit le fonctionnement donc de la communauté d'Afrique de l'Est.
Qu'est-ce que le déploiement de cette force coûtera à la République démocratique du Congo?
Je pense que la vraie question ici, c'est qu'est-ce que le déploiement de cette force coûtera à chacun des pays contributeurs en matière de troupes, en matière d'équipement, de technologie et le reste. Parce que pour ce qui est des FRDC, nous considérons que nous sommes en train de continuer nos opérations normalement, à traquer les groupes armées locaux, à les pousser au désarmement et ensuite les faire passer au processus politique. C'est que chacune des troupes qui appartient à chacun des pays est sous la responsabilité financière, la responsabilité logistique et autres de chacun de ces pays. Donc je pense que c'est plutôt les contributions de ces pays dont nous sommes reconnaissants parce que plusieurs de ces pays seront donc obligés de toucher dans leur budget pour pouvoir venir en aide au peuple congolais et à les aider à restaurer la paix à l'est du pays.
Serge Tshibangu, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.